France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on reçoit Nadia, une artiste dont le parcours raconte beaucoup plus que des tubes. Avant la musique, il y a eu le sport de haut niveau, l'endurance, la discipline, le goût de l'effort et l'idée qu'on tombe souvent avant de se relever. Puis, il y a eu la scène, les victoires de la musique, les disques de platine, des chansons devenues des hymnes populaires capables de rassembler des générations. Mais il y a eu aussi un choix rare, celui de ralentir, de sortir de la lumière, de reprendre le contrôle de son rythme pour se consacrer à l'essentiel, sa vie, sa famille et aussi sa liberté. Un choix souvent incompris dans une industrie qui valorise l'omniprésence plus que la justesse. Aujourd'hui, elle revient sur scène d'abord avec de grandes dates à venir, puis en musique avec de nouveaux titres, une énergie renouvelée et un album en préparation. Ce retour n'est ni une revanche ni une nostalgie, c'est peut-être une manière de dire que le temps peut devenir un allié quand on accepte de l'écouter. Ce soir, on est avec Nadia à La Régulière.
France Inter. À La Régulière. Mehdi Maizi.
Bonsoir Nadia.
Bonsoir Mehdi.
Comment ça va?
Ben ça va super bien. Bon, merci de m'accueillir.
Ben avec grand plaisir, je suis très content de te retrouver. Enfin, je t'avais jamais rencontré, mais j'ai été forcément écouté, évidemment. Donc je suis content que tu sois là aujourd'hui. Pour plusieurs choses, on va en parler, mais si ça te va, j'aimerais aussi qu'on retrace un peu ton parcours, parce que je l'ai rapidement dit dans l'introduction, mais avant la musique, t'es une sportive. Alors, quand on te suit sur Instagram, on voit que t'es encore une sportive, mais t'as été une sportive de haut niveau. Est-ce que tu vois un lien entre la carrière que t'as eue en tant que sportive et celle que tu mènes, que t'as menée en tant que pop star?
Alors, intrinsèquement, c'est intrinsèquement lié complètement. C'est pas de comment dirais-je, de vie parallèle. Souvent, on me dit comment t'as fait pour passer de ça à ça.
Ouais.
Et en fait,
pour toi, il n'y a pas eu de passage, justement.
Non, c'était, on va dire, comme une préparation, quelque part. Je crois que la vie, elle est assez subtile et on ne sait jamais pourquoi on fait certaines choses. Et puis, avec le temps, on se dit, ah ouais, ok, j'ai compris. Parce que ce travail d'artiste, quand je suis arrivée à Paris, bah, si je n'avais pas eu ces classes-là de cette école de vie qui est l'athlétisme, j'aurais jamais pu... Je crois que j'aurais abandonné à un moment donné, parce que c'était rude, en fait.
C'était plus dur, la musique, que le sport ?
Ah, la musique, c'est très, très dur. Ouais, parce que le sport, il y a quelque chose d'ingrat dans le sport. Après, ça dépend de la discipline que tu fais. Quoi que tu fasses, de toute façon, même en ayant discuté avec plein d'autres athlètes de haut niveau, à un moment, t'es seul avec le seul, quoi. Ce qui fait la différence, et pour passer l'épaule ou passer la ligne d'arrivée, au-delà de la pugnacité, de la ténacité, c'est aller au-delà de ce que tu sais que tu peux faire. Tu sais pas, mais tu sais, fait.
Se dépasser.
Voilà. Et puis après, tu peux aussi t'entraîner comme une malade et puis pas être dans ton poids de forme. Tu peux, il y a des choses qui sont incompréhensibles. On peut se dire, bon, bah, ok, là, je sais que je suis en forme, je vais m'entraîner comme une malade et puis je vais fixer le podium ou voir le titre. Mais jusqu'à la dernière minute, tu sais pas. Et peut-être que le jour de la compète, il y a des données que tu n'as pas, en fait. Et tu peux faire des contre-performances, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, dans le sport, on t'apprend que tout ce que tu fais, tu ne le fais pas pour rien. À un moment donné, ça paye, quoi. Et c'est ça, cette chose-là qui m'a permis, moi, de tenir au moment où j'ai ce rêve de vouloir chanter. Et puis, à un moment, je prends mes valises, je vais à Paris... Ben c'est ces moments-là qui m'ont permis de persévérer et d'imposer quelque part mon style, parce que c'était pas évident à l'époque.
Alors justement, tu sors un premier album en 2001 qui s'appelle Changer les choses, sur lequel on retrouve un morceau. Il y a plusieurs morceaux évidemment, mais le morceau Chaque fois.
Pourquoi abandonner là où tout peut arriver? Pourquoi se déserter? Il suffirait de s'écouter.
Ça te fait quelque chose hein, de réécouter ça, j'ai l'impression.
Ouais, bah...
Mais on voit aussi les influences de l'époque, c'est le R&B des années 2000.
Carrément.
C'est quoi justement, qu'est-ce que t'écoutes à ce moment-là? Parce que moi, quand je réécoute ça maintenant à posteriori, je vois effectivement, j'ai l'impression, le R&B américain,
ouais, années,
même
ça.
Français aussi, qui était important à cette époque-là. Parce que à un moment, t'as dépassé ce cadre du R&B, t'es devenue une artiste qui faisait de la pop, en tout cas, c'est comme ça qu'on te voyait. Mais en fait, le point de départ, c'est ça, c'est vraiment le R&B.
Bah, en fait, c'est j'arrive avec ce... Oui, à l'époque, c'était le R&B. En 2001, et clairement, on était à fond dans ça. Et moi, mes influences étaient plutôt rhythm and blues, dans plus le côté Aretha Franklin, Otis Redding, ouais. Whitney Houston. Et en même temps, il fallait être dans l'air du temps, parce qu'on parle d'un air de musique. Donc,
bien sûr.
Et donc, pour témoigner un petit peu de ce qui se passait, et ben, y a eu cette réalisation que j'aimais beaucoup et qui était plutôt influence américaine, mais comment dire, assez musicale quand même, parce que j'ai eu la chance de travailler avec un vrai musicien, compositeur, réalisateur, et en même temps j'arrivais parce qu'dès le départ, si tu veux, on voulait déjà m'imposer plus vers un truc où on me demandait de faire des reprises de chansons.
Déjà à l'époque. On sait qui c'est, les labels à l'époque.
Ouais. Et donc là, je dis non, en fait. Je commence à dire non. Et tu sais, on m'appelle la fille qui dit non. Tu sais, de la chanson, la fameuse chanson de Wallen.
De Wallen, exactement.
Voilà, qui. Et ben, en fait, ça a commencé comme ça. Et dès lors où moi, je leur dis bah non, en fait, j'aimerais. Créer un répertoire, quoi, en fait. Donc, je cherche et je rencontre cette équipe-là et je me dis, waouh, il y a un truc, j'ai envie, ça swing. Et j'ai la chance à l'époque de travailler en label avec des gars fous. Et on part dans l'imagerie très cinématique, en fait, déjà dès le départ, à la Mission Impossible, qui ramène
et ça,
tous les codes.
Et est-ce que c'est pas aussi ton passé de sportive
qui
ramène... Parce qu'en fait, il y avait déjà, revoit l'équipe aujourd'hui, alors maintenant que j'ai la biographie complète, ça me semble évident, mais il y avait aussi tout le côté effectivement athlétique, sportif, en fait, dans les équipes que tu avais mises dès le début, en fait.
C'est ça, c'est incarner, si tu veux, qui je suis. C'est-à-dire que le projet musical pour moi, c'est d'amener une énergie qui est la mienne, qui est foncièrement celle que j'ai à l'intérieur, mais que je cherche en fait, que je suis en quête, je tatillonne, voilà. Et en même temps, quand on me dit voiture, hélicoptère, voilà, je suis comme une gamine et on fait le truc. Et il y a une espèce de reconnaissance comme ça médiatique. Bon, à l'époque, on en avait vendu 40 000, ce qui n'était pas
bien. Aujourd'hui, ce qui est bien, hein, 40
oui,
000.
C'est ça.
Mais aujourd'hui, à l'époque, 40 000, c'était plus ou moins un échec sur un
premier album. Ouais, c'est ça, complètement.
Mais bon, le succès est arrivé après, notamment avec un morceau. Peut-être que tu en as marre qu'on te parle de ce morceau, mais moi, je vais le faire, évidemment. Et c'est parti.
Et c'est parti pour le show.
Là, pour le coup, le succès est au rendez-vous, c'est sur le deuxième album, qui sort en 2004, 16-9e.
16-9e. Alors, avant, et c'est parti, qui cartonne quand même beaucoup, on n'en parle pas, c'est Parle-moi.
C'est vrai, tout à fait. T'as un premier tube qui s'appelle Parle-moi.
Parle-moi. Exactement, et le beat de Parle-moi, c'est style de Dre quand même. Hein.
Ouais, ouais.
Faut quand même remettre dans le
c'est
contexte.
Vrai, c'est vrai, c'est
on
vrai.
Est dans de la pop, si tu veux, mais moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir ce côté hybride.
Ouais, ouais. C'est ce qu'on a appelé un peu après, avec un mot que j'aime pas beaucoup, mais c'est la pop urbaine, en fait.
Ouais.
C'est ce que vous avez commencé à construire dans les années 2000. En fait,
ouais, c'est ça.
Comme toi, comme d'autres, complètement.
Ouais, ouais. Ouais, c'est ça.
Est-ce que, à ce moment-là, quand ça arrive et quand le succès est aussi massif parce qu'il l'était, est-ce que tu as le temps de savourer ou tu comprends pas ce qui se passe à ce moment-là?
En fait, je pense que tu poserais la question à n'importe quel artiste, il te dit, quand t'es vraiment
dedans,
t'es ancré dans ce que tu fais, t'es sincère, et c'est le point d'orgue, tu calcules pas à savoir. De profiter, en fait, cette notion de profiter.
T'es dans le travail,
t'es
en fait.
T'es dans le don, en fait.
Ouais.
Tu donnes, en fait. Et t'es déjà dans le truc de poser le truc, qu'est-ce que je vais donner, le prochain. T'es déjà dans le prochain truc, quoi. Et quand les victoires de la musique, quand tout ça arrive, même les gens me disent, mais l'impression que, ça te. Bah, ça te met pas en l'air, quoi. Et en fait, si tu veux, c'était pour moi une... Si tu veux, il y avait 500 000 personnes qui avaient acheté l'album. Donc pour moi, déjà, c'était déjà ça, la reconnaissance. Et après, bah, évidemment, c'est la cerise sur le gâteau. C'est surtout pour l'équipe avec qui tu travailles, que tu kiffes vraiment. Parce que tu vois dans le regard de tes potes, des heures de studio, tu dis putain, tu te rappelles de ça, et ça, on a failli s'embrouiller pour ça et pour telle partie. Et au final, on est là. Et en fait, t'es là pour leur dire, bah voilà. On avait raison de résister en fait. Parce que faut dire, hein, parce que les gens ils voient le hit, mais c'est de la lutte hein, quand même. Hein. C'est pas les gens. Moi quand je vais en studio, c'est dur quoi.
Ça, c'était aussi le cas à l'époque. C'était dur.
Bah, c'est tout le temps des remises en question. C'est pas on vient, on pose un titre j'ai 20 titres. Non, moi je peux pas travailler comme ça, dans le sens que pour incarner quelque chose, tu rentres dedans en fait. Donc par exemple, et c'est parti, on s'est tapé tous les Rocky, clairement. Je venais à la salle, tu vois. Je venais au studio en mode survette, en mode je m'entraînais comme une boxeuse, ouais. Je mangeais comme une boxeuse, je bougeais, j'étais un peu le mec quoi. Et en même temps, quand je passais derrière le micro. Et il y avait des phases où le compositeur me dit non, là il y a une note qu'il faut vraiment aller chercher pour aller chercher du relief, pour aller chercher le côté warrior du truc. Et il y avait que comme ça en fait. Et si tu veux, les chansons elles arrivent au compte-goutte de ce qui vient de l'intérieur. Mmh. En fait, moi ma musique c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi et comment je vais arriver avec mes gars pour aller amener une imagerie, un délire, un esprit et une humeur. Voilà, c'est ça surtout, c'est l'humeur.
C'est quoi ton Rocky préféré ?
Mon ?
Ton Rocky préféré. Tu te souviens ou pas ? Tu l'as revu, ça fait trop longtemps. Le 1, il est vraiment génial.
Le 1, j'allais te dire. Franchement, ça reste le 1.
Le 1, il est parfait. Bon, je propose qu'on écoute un morceau, et puisque on va aussi parler quand même de ton actualité. Ouais. Et notamment, ton actualité, c'est un nouveau morceau qui s'appelle Libère-toi du Rich. Je propose qu'on l'écoute tout de suite, et puis on parle de ce morceau et de ce qui arrive dans les prochaines semaines et les prochains mois avec toi, Nadia, juste après ça. Libère-toi du rythme, donc c'est le titre, le nouveau titre de Nadia qui est notre invitée ce soir.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Nadia, on va continuer bien sûr un peu à retracer ta carrière, mais avant ça, vu qu'on vient d'écouter ce nouveau morceau, parlons aussi de l'actualité. Mmh. Qu'est-ce qui t'a, on en parlait un petit peu en antenne, mais je vais te reposer la question, qu'est-ce qui t'a motivé à revenir justement? Parce qu'effectivement, il y a des dates qui arrivent, avec d'autres artistes notamment, et dans lesquelles tu aurais pu juste te contenter aussi de chanter tes tubes. C'est pas uniquement ce que tu vas faire. Pourquoi t'as voulu retourner en studio?
Bah, en fait, c'est l'impulsion du public, en fait, c'est la scène. Justement, l'année dernière, j'ai eu l'occasion d'être dans pas mal de Zénith de France. Et quand tu vois les gens qui viennent te voir, et surtout les générations des jeunes filles de 20 ans, 18 ans qui viennent avec leur mère et qui te disent ok, nous, évidemment, nos parents, c'est parti, parle-moi, rock. Mais quand on te voit comment tu bouges sur scène, comment tu te sapes, comment ci, comment ça, parce qu'elles te parlent comme ça, les nanas, et elles sont cash, elles te disent, mais c'est quoi le Nadia 2.0, en fait? Si nous, on aimerait que tu nous ramènes quelque chose.
Des nouvelles choses, quoi.
Ouais. Parce que déjà, elles étaient dans une adhésion, en fait. Et je voyais ça très, très, très souvent, chaque soir, quoi, quasi. Et donc, ça a commencé à gamberger à ce niveau-là. Et puis après, c'est vrai que le producteur de Aga de Feeling, qui est aussi le producteur...
Quel nom de la tournée, hein, Aga de Feeling,
Voilà, de la tournée, qui m'a parlé, qui m'a proposé aussi de remonter sur scène, moi seule, parce qu'il a vu aussi l'engouement qu'il y avait chaque soir. Et je lui avais dit, si je monte sur scène, je suis obligée de revenir en studio avec des nouvelles chansons. Je peux pas... Et donc, dans cette dynamique-là, on est parti là-dessus, quoi, en fait.
Tu veux pas être juste dans la nostalgie?
Non.
Ça fait partie du jeu.
En fait, la nostalgie, ça fait partie du jeu, comme tu dis. Mais un artiste, il se doit d'être témoin de son temps, en fait. Donc, amener quelque chose de ce qui se passe, voilà. Tout en gardant son influence, ce qui l'habite, ce qui l'anime, mais en amenant la musique d'aujourd'hui, quoi. Tu sais, c'est comme les peintres. Tu regardes Picasso. Picasso, quand il y avait la guerre en Espagne, Guernica, il y a un style de Picasso à cette époque-là. Et puis quand il part en Afrique, c'est le Picasso avec des tableaux africains. Et là, du coup, on arrive à suivre le mouvement de la temporalité, quoi, du temps qui passe. Et je crois que... Mais pas que les artistes, même, d'ailleurs. Tu vois, là, aujourd'hui, d'être dans une émission comme la tienne, ce que tu animes toi au travers les artistes de partout, hein, de manière très éclectique d'ailleurs, hein, je vois que ça amène quand même quelque chose de contemporain, je trouve.
T'es en train de me comparer à Picasso?
Ben, je trouve que ce que tu fais, tu le fais super bien.
C'est gentil.
Mais ouais, non, mais tu vois, c'est d'amener quelque chose qui est dans l'air du temps et pour le coup, tu kiffes parce que tu vas aller quand même chercher la nostalgie des sons
bien sûr.
Qu'on a tous kiffé et puis en même temps,
la nouveauté,
le réel.
Ouais, complètement. Bon, bah, merci en tout cas, je suis contente. Merci pour ce compliment.
Bah,
et on continue tout de suite à parler avec Nadia. Alors, on l'a dit, il y a eu évidemment beaucoup de succès dans les années 2000. Et puis, c'est après le dernier album en 2008, si je ne dis pas de bêtises.
Oui.
Il y a aussi, évidemment, on a déjà parlé dans des interviews, mais je suis obligé d'aborder le sujet, ce moment où, alors que ça marche, c'est-à-dire qu'en fait, il y a ce morceau notamment avec Kendrick Elise, il y a ce qui cartonne, enfin, je veux dire, ça se passe bien.
Ouais,
c'est pas un moment compliqué, parce que parfois, il y a des départs après des moments aussi plus compliqués dans des carrières, après des échecs, ce qui arrive, des artistes qui ont besoin, après ce qu'on appelle les traverses du désert. Toi, c'est pas ton cas à ce moment-là. Il y a ce choix, effectivement, de se mettre en retrait. Pourquoi ?
Bah, tu vois, la logique artistique, elle est de mettre un grand coup de frein à main, et puis la logique d'engranger commerciale, elle aurait été effectivement de continuer, de prendre les avances de maisons de disques, et puis d'engranger, de faire un album qui suit le succès que tu es en train de vivre. Mais moi, si tu veux, je reviens sur ce point de sincérité. En fait, quand la bouteille, elle est vide, t'as raconté tout ce que t'avais à raconter et que l'inspiration n'est plus là, en fait, et ben, tu fais quoi? tu remplis ta feuille, tu vas au marché en fait. Et en fait, ça, c'est une démarche que je ne sais pas faire. C'est même pas que je, donc je l'ai même pas tenté en fait.
Ouais.
Et en plus, ce que j'ai dit, c'est que les médias, effectivement, ce qui a été une disparition pour eux, a été une vraiment des retrouvailles pour ma famille, mon fils.
Entre 2001 et 2008, tes proches te voient moins.
Ah ouais, ouais. Ah mais oui. Ah mais complètement. C'est tournage, c'est studio, c'est tournée, c'est promo. C'était beaucoup, hein, parce que j'étais beaucoup, beaucoup à la télé.
Ah ouais,
on voyait beaucoup. Et dans ces cas-là, bah, il y a personne, hein, dans ces cas-là qui est là pour te dire bon, là, fais gaffe, parce que
c'est un peu trop.
C'est un peu trop. Et en fait, il y a eu un moment, en fait, c'est un déclic. En fait, c'est 13 semaines numéro 1 avec Enrique. Je me suis dit, là, si il y a quelque chose que tu comprends pas, là, c'est maintenant ou maintenant. Donc, et j'ai quelque part, moi, je sais que je vais partir, je sais que je vais revenir, par contre. Par contre, je sais pas quand est-ce
c'est
que
c'est pas quand, ouais.
Voilà. Tu sais, c'est un peu... même si tu dis, allez, je me donne 2 ans, max 3, quoi. Mmh. Et puis, bah, en fait, quand tu reviens avec des maquettes, là, on te montre que bah, ça ne va pas être si simple que ça. Donc, là, j'ai connu l'adversité à ce moment-là aussi. Et du coup, ça a provoqué chez moi le fait de monter mon propre label, en fait.
Dharma,
voilà. Et du coup, je travaille toujours avec les mêmes gars parce que je sais que c'est des fous en termes d'exigence, en termes de on n'a pas peur de recommencer, tu vois. Même là sur cette chanson, on avait le titre il y a 2 mois et puis bah bim bam boum, il y a un mois on se dit non, ça va pas quoi. Donc on a tout cassé, on a tout recommencé en fait.
C'est marrant parce qu'effectivement tu parles toujours de ton équipe comme une sportive. T'as toujours gardé ça, c'est comme si...
Tu sais par exemple en studio, quand j'arrive en studio, je pourrais arriver en studio à midi et partir à 17h. Mais non, je me dis, je vais dormir, mettez-moi le matelas par terre, je vais dormir. Et pourquoi? Parce que quand je me lève le lendemain, bah, les gars, ils me regardent, mais bon, bah, on va se re-challenger, quoi. Mmh. Tu vois, il y a toujours ce truc de est-ce que tu peux mieux faire qu'hier, en fait. Donc, on teste deux, trois couplets, on s'aperçoit que la voix est plus claire. Donc, moins d'appréhension. Donc, on se dit, bon, on la tente et on retente. Et c'est mieux qu'hier. Et on fait ça sur 3 jours, tu vois.
Mmh.
Donc, j'ai quand même la pression. mais en même temps, je me dis, parce qu'une fois que c'est dehors, quoi.
Et aussi, avec le temps, tu parles un peu plus, je pense, plus librement de spiritualité, de foi. Est-ce que ça t'a aussi guidé, peut-être, à revenir au bon moment, peut-être aussi à être... Parce que j'imagine que quand on est absente, en tout cas absente, des radars publics, parce que toi, dans ta vie, t'as sûrement fait plein de choses, mais pour les gens, t'es absente, il peut y avoir aussi... il pourrait y avoir du stress généré par ça, de est-ce que les gens vont encore être là, est-ce que les gens vont m'oublier. Et peut-être que quand on est guidé par quelque chose de plus grand, on a peut-être moins ce stress-là. Est-ce que ça t'a pousser aussi ça.
Ben ça, c'est ce que tu dis, c'est central, hein, en fait. C'est bien sûr que la foi, elle est intacte dans le sens qu'elle aide et elle donne beaucoup de force dans le quotidien et que comme tu dis, j'ai une vie à côté de ça et que j'ai... C'est marrant, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent, est-ce que t'as eu peur, etc. Ben non, en fait, bizarrement. Parce que, assez en phase avec mes décisions, tu sais, dans le mot décider, il y a le verbe décéder à quelque chose, tu vois. Donc quand tu prends une décision, en général, c'est tranché, c'est vertical, c'est senti, il n'y a pas de regret, en fait.
Il n'y a jamais eu de regret de se dire, ah, peut-être que...
Non. Non, même si dans... Non, parce que tu vois l'adversité que j'ai vécue extérieure. Non, tu peux pas. Non. Bah, ça te c'est Nietzsche qui disait ce qui tue pas rend plus fort. Donc, j'ai trouvé des subterfuges, le label, trouver des équipes, aller en plus c'est extraordinaire parce que là pour le coup tu trouves des solutions en fait. T'es obligé de trouver des solutions. Donc tu te renforces en fait.
Est-ce que aussi avec le temps, tu te rends compte que mine de rien, il y a aussi quelque chose qui a été de l'ordre, peut-être notamment pour des jeunes femmes à l'époque, de quelqu'un, des gens qui pouvaient te voir comme un modèle, tu sais, notamment aussi pour des jeunes femmes, déjà, peut-être aussi pour des jeunes femmes issues de l'immigration. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a aussi eu ça, peut-être dans l'identification d'une partie du public dans les années 2000 et peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs?
Alors, oui, bien sûr, bien sûr. Une fierté, hein, en règle générale, c'est vrai. Parce que déjà, dans ma musique, ma musique est assez joviale, même si elle est toujours en accord mineur, parce que elle est très martiale, quelque part. Mais j'y amène cette pop et ce côté un peu solaire, quand même, du dépassement de soi, etc. Ouais. Donc, ça amène forcément quelque chose, ça communique quelque chose aux gens. Et pour ces filles, ouais, vraiment, une fierté partagée en plus, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas nombreuses. Hein.
C'est pour ça que je dis ça.
Voilà, on n'était pas nombreuses. Et de venir sur des plateaux télé, moi je me souviens de Michel Drucker qui me disait souvent, ta manière de bouger sur scène, on voit que tu as été une athlète, mais en même temps, on voit que tu aimes ce que tu fais. Parce que comment tu te présentes, comment tu viens vêtu, comment... Enfin, tout est... C'est pas que c'est calculé, mais c'est rendre à l'honneur ce qui m'a fait rêver moi-même, en fait. Moi, c'est Whitney, moi, qui me faisait rêver. J'ai dit, moi, je veux faire ça, je veux être ça. Donc, elle, quand elle venait... Ah, elle avait l'œil qui pétillait, elle avait les tenues, elle avait tout ça. Donc, ce métier, c'est tout ça, en fait. Ouais.
Hein. Parce qu'on parle de dépassement de soi, je propose qu'on écoute un morceau d'un groupe porté par une artiste qui incarne aussi le dépassement de soi, c'est Beyoncé.
Ouais.
Je pense qu'on écoute un morceau de Destiny's Child.
Yes.
C'est un groupe que t'as aimé ou pas?
Ah ouais, carrément.
Forcément.
Ah bah ouais.
Bon, je pense qu'on écoute le morceau Soldier avec Tia et Lil Wayne, parce qu'il y a notamment un couplet de Lil Wayne sur ce morceau qui est extraordinaire, donc on s'écoute ça tout de suite. Yes. Et Destiny's Child avec Soldier. Hey.
Got it, I'm the hottest around. They'll know when they see you rolling them parlors around it. With the top down, feeling the sounds quaking and vibrating your thighs. Riding harder than guys with the chrome wheels at the bottom, white leather inside. When them lanes be spitting at you, tell them don't even try to shoot at Michelle and kick it with Kelly or holla at B. You gotta be G's, you way out of your league.
We like them boys that be in them legs leaning. Open their mouth, they grill gleaming. That we're cleaning.
They always be talking that country slang. We like
that beat, they be in the back beating. I see so low from that chiefin. I love how he keep my body screaming. A rude boy that's good to me with street credibility.
If his status ain't hood, I ain't checking for him. Better be street if he looking at me. I need a soldier that ain't scared to stand up for me. Known to carry big things if you know what I mean. If
like them boys up top from the BK. Know how to flip that money three ways. Always riding big on the freeway.
With that East Coast slang, that is country girls we like.
Low cut Caesars with the deep waves. So quick to snatch up your Beyonce. Always coming down, popping our way.
Telling us that country girls are kind of girls they like.
Army. I'm walking with purple hearts on me. You're talking to the sergeant. Body marked up like the subway in Harlem. Call him BCF baby. Please say the baby. If you don't see me on the block, I ain't trying to hide. I blend in with the hood. I'm camouflage. Bandana tied. So mommy join my troop. Now every time she hear my name, she salute.
I know some soldiers in here.
Where they at?
They wanna take care of me. I know some soldiers in here.
Where they at?
Don't mind taking one for me.
Where they at?
I know some soldiers in here.
Where they at?
They wanna spend that on me.
Where they at?
I know some soldiers in here.
Where they at?
Don't mind putting that on me.
Where they at?
Soldier, donc des Destiny's Child en featuring avec deux rappeurs légendaires américains, T.I. et Lil Wayne.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Ce soir, je suis avec Nadia qui revient aussi avec de la nouvelle musique, on l'a dit. Et du coup, je voulais parler avec toi d'artistes qui ont effectué des retours dans la musique, qui ont été absents pendant quelques temps. J'en ai sélectionné trois, tu me dis si ça te parle ou pas. Et je voulais commencer avec un des exemples qui me semble le plus marquant, c'est Shadé. Qui, en fait, entre Lover's Rock en 2000 et Soldier of Love en 2010, a marqué plus de 10 ans d'absence. Pas d'interview, pas de teasing, pas tentative de rester visible. Et quand l'album Soldiers of Love arrive, c'est pas un album de retour, c'est juste un album dense, sombre, adulte, profondément ancré dans le temps qui a passé. Donc là, Shadé ne cherche pas à refaire des tubes, elle assume le vieillissement, la lenteur, la gravité émotionnelle. Résultat, un disque numéro 1, respecté par la critique, adoré par le public, parce que l'absence avait créé quelque chose de rare, de l'attente, mais surtout de la confiance. Avec Shadé, on comprend une chose essentielle, le silence n'est pas une fuite, c'est une manière de protéger son langage artistique. Fait difficilement mieux que ça quand même. Hein. Est-ce que Shadé, ça a été une artiste importante?
Très importante. Ouais, Shadé, c'était, je l'avais dans mon Walkman pour aller à l'entraînement. C'était une artiste que j'écoutais quasi quotidiennement, quoi.
C'est intéressant vraiment comment elle a réussi à créer cette espèce d'aura en étant très rare, justement, en maintenant une stature vraiment à part.
Oui. Mais parce qu'elle elle porte ça en elle aussi. Hein. Elle a quelque chose comme ça qui est de l'ordre de... Là, typiquement, c'est une artiste qui incarne ce qu'elle est, tu vois. Et il n'y a pas de style Shadé quand tu regardes. C'est Shadé, quoi.
C'est Shadé.
Y a pas de... quand elle quitte le devant de la scène, elle se... quelque part elle renforce sa
son aura
bien sûr.
Alors avant de reparler de musique, je voulais parler d'un réalisateur qui lui aussi a pris une longue pause. C'est Terrence Malick qui, donc après Les Moissons du Ciel en 1978, il disparaît pendant 20 ans et donc il n'y avait aucune communication, rien, on n'avait pas d'infos sur lui. Et il revient avec La Ligne Rouge en 1998. Il revient encore plus exigeant, encore plus mystique, encore plus libre, et surtout il ne s'explique pas sur son absence, il ne justifie rien, il laisse parler son film. Chez Malick, le silence n'a rien de stratégique, il est un peu existentiel, et son retour a prouvé quelque chose de fondamental. On peut revenir après des années et refuser toute compromission. Lui, 20 ans d'absence, c'est quand même assez fou. Aujourd'hui, il a fait plusieurs films depuis, notamment dans les 2010, comme Tree of Life, par exemple. Ouais. Mais c'est un réalisateur extrêmement respecté et qui juste prend la liberté de partir pendant 20 ans s'il juge nécessaire.
C'est des gens très forts, ça, intérieurement. Ouais. C'est, tu sais, la solitude, au sens noble du terme, moi, je le prends comme quelque chose de lumineux, quoi. Et on est dans une société comme ça, occidentale, où on perçoit la solitude, le côté solitaire, comme ça, comme quelque chose qui est pas normal, qui est asocial et tout ça. Pas du tout. Quelqu'un qui sait rester seul et qui n'attend pas toujours de l'extérieur quelque chose, quelqu'un qui est en extrême bonne santé et en paix, quoi. Moi, j'admire ces gens-là, vraiment.
Bon, je voulais aussi parler d'une artiste qui n'a toujours pas effectué son retour, en tout cas sur CD, c'est Lauryn Hill. Un cas complexe, peut-être un cas aussi mal compris. En 98, elle sort The Miseducation of Lauryn Hill, un disque colossal, succès critique, succès public, des Grammy Awards en pagaille, un album qui marque l'histoire de la musique contemporaine.
Yeah.
Et puis, quasiment plus rien, pas de véritable album studio ensuite. Alors il y a eu un MTV Unplugged en 2002, parfois mal reçu, puis des apparitions, des concerts, des retours scéniques souvent commentés, parfois critiqués. On a longtemps raconté cette histoire comme celle d'un gâchis, mais Lauryn Hill, elle, raconte autre chose. Elle explique qu'elle a fui un système devenu trop violent, trop intrusif, trop déshumanisant. Son silence n'est pas un manque d'inspiration, c'est un refus. Refus d'être un produit, refus de répéter une formule, refus de sacrifier aussi peut-être sa santé mentale. Aujourd'hui encore, malgré l'absence de nouvel album, son aura reste intacte. Ses concerts sont des événements, son influence est immense. Et son album, donc sorti en 1998, avait été élu plus grand album des 60 dernières années par Apple Music. Alors bon, je sais pas si elle reviendra avec de la nouvelle musique un jour, mais elle a pris en tout cas cette liberté-là. Moi j'ai eu la chance de la voir en concert l'année dernière ou il y a 2 ans. Ouais. Elle a eu seulement 2 heures de retard. C'est moins que ce qu'elle fait d'habitude. Est-ce que ça t'a, c'est aussi une artiste qui a pu te marquer? Parce qu'il y a eu les Fugees, j'ai même pas parlé des Fugees avant, mais qui était aussi un groupe qui a marqué les années 90. Les Fugees, et puis elle en solo, bien sûr.
Ah ouais, bah, t'as tout dit, hein. Fugees, on a tous été marqués par cet album.
Ouais. The Score.
Moi, je me souviens, j'allais voir des combats de boxe et t'avais tous les boxeurs qui étaient à fond, qui mettaient toujours un de ces sons avant l'entrée sur le ring.
T'as toujours, toi, été attiré, parce que on a parlé sport de haut niveau, toi, t'as pas fait de la boxe,
en tout
cas, mais t'as toujours été attiré par ce sport-là ou par les sports de combat?
Bah, en fait, moi, dans ma famille, ils ont fait de la boxe, en fait, déjà. J'ai un frère qui a été champion du monde de boxe française et j'ai un frère, mon frère aîné, qui a entraîné longtemps en anglaise.
Okay. Oui, donc la boxe faisait partie de ta vie,
en fait. Ouais. J'ai fait un petit peu, moi. J'ai fait un an de boxe française. Donc, non, je trouve que dans ce sport-là, il y a quelque chose qui est... Il y a vraiment la victoire de l'esprit sur le corps. Parce que c'est pour moi un des sports les plus ingrats. Tu sais, quand tu tombes, t'as le genou à terre et que t'as tout donné à l'entraînement, t'as tout misé, t'as les gens de ta famille, tes enfants, c'est dans le regard d'un boxeur, il y a une espèce d'humilité comme ça qui est forte et puis Mohamed Ali aussi, moi pour moi j'ai un rapport comme ça, autant tu vas me dire dans les chanteuses c'est Whitney Houston, autant le personnage qui a jalonné mon parcours,
c'est Mohamed Ali,
mais même dans mes rêves. C'est quand il vient dans tes rêves et qu'il te parle, et c'est Mohamed Ali, quoi. Ouais, ouais.
Qu'est-ce qui t'a autant inspiré? Enfin, c'est pas quoi. C'est évidemment quelqu'un d'extrême.
Sa connexion avec le divin, justement.
Ouais.
Et ouais, bah oui, parce que lui, c'est un peu d'ailleurs les mêmes. Whitney, c'est sa connexion avec le divin qui me percute, en fait. Mais vraiment, qui me. Et Mohamed Ali, c'est ça, c'est-à-dire cette légèreté, c'est vraiment, c'est un peu. Qu'il avait, et en même temps cette force d'être guidé par ça, quoi. C'est l'ineffable, quoi. Donc il y a, voilà. Et d'ailleurs quand il y a des interviews où tu vois Whitney avec Mohamed Ali, il y a un truc qui se passe entre eux. Tu te dis bah ouais, parce qu'ils sont animés par la même chose.
Nadia est avec nous jusque 23h. Alors, c'est pas encore l'heure des recommandations, mais tu m'en as donné, et tu m'en as donné une que j'aimerais qu'on développe, parce que tu as parlé d'un artiste qui, je crois, aussi est important, parce que tu as parlé de Whitney Houston, mais tu as cité Michael Jackson.
Ouais.
Alors, c'est un artiste, je crois, qui est assez connu, qui est plus connu que le pain, comme disait NASA. Et d'ailleurs, il y aura même un biopic qui va lui être consacré en 2026. Et on peut s'écouter, par exemple, un extrait de Rock With You. Donc ça, c'est un extrait de Rock With You qui est présent sur Off The Wall, qui est sur mon album préféré de Michael Jackson, même si évidemment Thriller, évidemment Dangerous, mais bon bref, j'adore Off The Wall. Pourquoi Michael est important pour toi, même s'il est important pour énormément de gens. Il y a quelques semaines, on a reçu Laurie ici. Je lui ai posé la question, quelle est pour toi la plus grande pop star de tous les temps? Elle m'a dit, bah, évidemment, Michael Jackson. Oui. C'est une réponse qui est presque trop évidente. Mm. Est-ce que c'est aussi le cas pour toi? Est-ce qu'il a été, il t'a aussi accompagné toute ta vie?
Oui, parce que il a amené quelque chose de nouveau. Il a amené sa musique, son rythme. Et sa capacité justement à être hybride en fait, dès le départ en fait. Lui il a vite compris qu'il n'allait pas s'enfermer dans un genre et ça a été sa richesse et puis il était le rythme par excellence quoi, le corps, l'âme, l'esprit, tout quoi, il y a tout.
Est-ce que toi aussi, parce que sans comparer ou quoi, mais en tout cas t'as aussi tout le temps toi travailler ton corps, c'est-à-dire que aussi bien sur la partie sport, la danse, c'est quelque chose qui est important aussi, même toi, dans ta manière d'incarner. Est-ce que ça vient aussi d'artistes comme Michael Jackson, cette espèce de rapport au corps, aussi à l'entretenir, à la danse, à tout ça?
Oui, et je te dirais que c'est pas juste pour l'effet extérieur. Hein, tu sais, je te jure, quand tu bouges, quand tu sens le rythme, tu bouges, tu as... T'as quelque chose qui se passe dans le cerveau qui s'éclaircit, il y a quelque chose qui va aller chercher l'inspiration. Moi souvent quand j'ai des idées, c'est quand je suis sur le tapis de course quoi.
C'est là où tu trouves des idées, des solutions.
Mais ouais. C'est ça qui m'anime et je suis vraiment animée, je me dis je vais m'arrêter ou je suis en chien, je cours quoi. Et j'appelle, j'ai une idée, le truc c'est ça et ça devient clair. Et je pense que ce niveau-là d'artiste comme Michael, c'était quelqu'un qui avait besoin d'harmoniser en fait. Il avait cette quête de l'harmonie en fait, du son, de l'image, et forcément ça passe par le corps. Enfin, je veux dire, t'imagines la musique qu'il fait s'il peut pas faire une musique qui impacte si dans son corps ça bouge pas.
Oui, c'est vrai que Michael Jackson sans la danse, ce serait très bien, mais ce serait pas exactement Michael Jackson. Quoi. Évidemment, tout ça a joué un rôle important.
Complètement, ouais. Et c'est vrai que moi, le fait de bouger, moi aujourd'hui, le sport, c'est pas quelque la compétition, elle est loin derrière. Hein. C'est plus quelque chose qui me verticalise, qui m'anime et qui me donne de l'inspiration. Donc, et mon corps me parle. Mon corps me parle, me dit des choses. Et je ne pourrais pas continuer à faire de la musique si je, tu sais. Nous, surtout nous les femmes, quoi. Enfin, on fait un métier quand même, on est dans... Notre métier, c'est un corset, quoi, à lui tout seul. Donc, mais oui, on amène quelque chose aux gens, de la jovialité, de l'envie, ou même parfois, tu peux raconter quelque chose de triste, mais tu le racontes avec ton corps. On peut pas dissocier le corps de l'esprit, de l'humeur, de tout ce que tu as envie de communiquer, en fait. Pour moi, il est attaché, quoi.
Bon, je propose qu'on écoute un morceau. Est-ce que tu connais l'artiste Thames?
Ah, non.
Eh ben, je suis très heureux de te la faire découvrir. Elle vient de sortir un EP de grande qualité. On va s'écouter le morceau Big Daddy, une artiste nigériane qui est extrêmement talentueuse. On s'écoute ça tout de suite, Thames, dans La Régulière. Don't reach out to me now, unbeliever. Donc Big Daddy de Thames présent sur son EP Love is a Kingdom.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Et ça, c'est un extrait de Tired of Being Sorry, donc ton featuring avec Kendrick Lamar qui a duré, qui était 13 semaines numéro 1, c'est ce que tu disais. À l'époque, comment cette collaboration naît ?
En fait, elle aurait dû naître un an avant, mais moi j'étais sur ma tournée, et je débutais ma tournée, on préparait des trucs, mon label me dit...
À l'époque, c'est une énorme star, hein, Enrique Iglesias, il est vraiment...
Oui, complètement. Et c'est vrai que... Mais quand même, il avait envie de connecter avec la France, parce que la France était importante pour lui. Et je sais qu'il avait demandé à me rencontrer. Et moi, à ce moment-là, je reçois cette demande, mais je vois pas le rapport, en fait. Et on me dit, mais t'es folle, quoi. Et je dis, mais t'es folle de quoi ? Artistiquement, je sais pas comment je peux connecter avec lui, en fait. Et je suis sur ma tournée, donc je me dis, non, quoi. Donc je dis non, en fait. Et là, on me dit...
Encore celle qui dit non.
Et donc, du coup, je dis non, mais après, voilà, je finis ma tournée. Est-ce qu'on peut se voir quand je reviens en France, etc. Donc, il revient un an après. Et il me dit, voilà, moi j'aimerais qu'on se voit là, qu'on essaie de discuter. Et donc on déjeune ensemble et il me fait écouter. Donc on déconne quand même. Le déjeuner se passe super bien. Je vois qu'il est, c'est un mec super simple. Il déconne tout le temps et très bien élevé. Et en même temps, il me dit, tu vois, moi je pensais à telle chanson et un titre très R&B. Alors là, j'ai dit, no way.
Ah ouais.
Très produit. Façon R&B, quoi. Je le dis parce que c'était en 2008, donc on était quand même, c'était encore très marqué sur cette vague-là. Je dis non, moi, si on fait un truc ensemble, faut qu'on reste dans le côté pop, quoi. Parce que on va pas s'enfermer dans un truc. Surtout que je trouvais que bah, lui, il dénotait pas ce style-là, quoi. Et faire pour faire, quand je te disais tout à l'heure, je peux pas faire. Et donc, il me dit, bon, comment on fait ? Et je dis, ah, tu vois, celui-là, là, on accélère le beat un petit peu, tu me laisses refaire le texte, parce qu'il était très dark, le texte. Et on fait un tour d'un clip, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et il me dit, non, ce titre, je l'ai sorti il y a 6 mois, il n'a pas marché. Aux États-Unis, il l'avait sorti. Je dis, non, laisse-moi rentrer en studio, on va changer le beat, on va changer ça. Et on tente, si en tout cas, tu as envie qu'on fasse un truc ensemble, moi, ça, là, je suis animée pour faire ça. Et il me dit, je te fais confiance. Je te jure qu'il m'a dit, je te fais confiance. Et je lui dis, bah, tu sais quoi ? Je te jure qu'on va vraiment faire un truc bien, quoi. Et je me souviens, j'étais partie dans le désert après le tournage du clip, parce que ça aussi, c'était fallait fighter encore pour expliquer au label qu'il fallait raconter une histoire. Donc, on ne pouvait pas tricher, on ne pouvait pas, sous prétexte que la chanson était sortie 6 mois avant.
Oui.
Et du coup, bah, on est rentré numéro 1 tout de suite, hein. Voilà. Donc, et on a fait très peu de promos hein, sur ce titre-là.
Ouais. Ça a été aussi les radios ont joué le jeu et ça c'est ça. C'est...
Bah après, ouais.
Est-ce que tu sais que quand tu rentres numéro 1 presque sûr à chaque fois à cette époque, est-ce que tu as l'impression que c'est facile au bout d'un moment? Est-ce que il y a ce moment-là où tu te rends peut-être plus compte que finalement un succès c'est un combat en réalité et quand t'enchaînes comme ça, est-ce qu'il y a un moment où tu dis oh, en fait j'ai la recette?
Non, on se dit pas qu'on a la recette. Par contre, on sent quand on a ce truc qu'on va délivrer, on sent que c'est on a rendez-vous avec notre destin en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est le truc avant quoi. Quand t'as combattu là comme une forcenée et que t'as réussi à imposer, on va dire, ton style et que c'est rentré à un moment donné, là tu te dis ça y est, tout ce que tu vas passer là après, puisque ça reste dans cette vibe, ça va, si le public est là en tout cas, et le public a été là de toute façon, ça a été, et c'est vrai que ça a été assez, comment dire, pour les gens. C'était des phrases que je disais, oui, bah ouais, bah, elle va sortir un nouveau single, ouais, bah, ça va entrer encore numéro 1, 2, 3. Mais j'ai pas là. C'est énormément de travail, Mehdi. Je te jure que c'est pour certains, ils vont appeler ça du sacrifice. Moi, j'appelle pas ça du sacrifice parce que il n'y a pas de poids. Jamais, je me suis dit à un moment, purée, je suis là alors que je pourrais être là. Jamais. En fait, à chaque fois que j'ai un projet, je le mène à bien. Et tant que c'est pas comme on aimerait que ça soit, bah on peut pas être ailleurs. Même t'es dans ton lit, tu penses à ton truc, tu penses à ta mélodie, à ton texte, à tes mots, à tout quoi. Et donc voilà. Mais oui, c'est quand même un métier très chronophage et énergivore, honnêtement.
Nadia, c'est l'heure de la question qui tue. Si demain, plus personne ne te demande de chanter rock ou parle-moi, enfin tes grands tubes, mais uniquement des nouvelles chansons, est-ce que tu te sentirais enfin libre et débarrassé de ces énormes tubes, ou est-ce que tu aurais l'impression de perdre une partie de toi?
Ah, tu perds une partie de toi, parce que c'est toi en fait, toutes ces chansons c'est toi, c'est le graal de tout ce que tu as pu donner à un instant T en fait, c'est ton témoignage, donc...
Il n'y a pas de lassitude?
Non, franchement, là je remonte sur scène, je fais les... Mais je te jure, je vois les gens, je me dis, mais c'est fou quoi, puis mes beats, mes sons sur scène, c'est des productions quand même très anglo-saxonnes, donc même moi-même, quand j'ai une petite tension, quand j'entends les 2-3 premiers accords et c'est parti, et les violons, bah je suis dans Rocky quoi.
Donc, ça t'embarque encore?
Ouais, ça m'embarque, parce que j'ai pas cherché à faire de la musique à l'époque, de ce qui se faisait à l'époque. J'ai fait ma musique et donc ma musique elle peut pas être datée quoi.
C'est la tienne, elle est sincère,
c'est
en tout
la
cas,
mienne donc, ouais, okay. C'est la mienne, elle est intemporelle en fait, en ce sens. Et moi, quand je vois les générations qui viennent et qui me disent non, nous on n'écoute même plus ce qui se passe à la radio, on préfère se rassembler avec des potes en soirée. Combien de fois je suis rentrée de concert, mon fils me dit, tiens, écoute, les fenêtres allumées, les fenêtres ouvertes, et c'est parti, le duo avec Enrique. Tu dis ça, tu dis, bon, bah, c'est des jeunes de 25-30 ans, bah, tant mieux. Mais voilà, c'est pas... Non, au contraire, moi, je suis assez fière, hein, honnêtement.
Nadia, c'était un plaisir de t'avoir
moi
aujourd'hui,
aussi,
vraiment. On rappelle donc le nouveau morceau Libère-toi du rythme est disponible.
Merci.
En attendant... Un nouvel album,
yes.
On peut le dire,
VHS.
Tu l'as annoncé, exactement,
yes.
VHS. Merci beaucoup, vraiment, et merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission, qui était préparée par Alex Alacour, Redouane Tella, une émission réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert, la technique ce soir c'était Nicolas Delmas et Guillaume Roux. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, nous recevons l'auteur de bande dessinée, Théophile Sutter, pour découvrir, redécouvrir nos émissions. Abonnez-vous sur l'application Radio France. Merci.